affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de Canal Académie. C'est la plus ancienne bibliothèque de France et c'est sans doute la plus prestigieuse. Certains d'entre vous l'ont peut-être visitée lors d'un passage à Paris, d'autres y ont passé de longues heures de recherche à éplucher des ouvrages historiques ou, s'ils ont de la chance, à se plonger dans l'un des 200 000 précieux volumes du fonds ancien. Les esprits malicieux pourraient la relier aux péripéties familiales d'un célèbre monarque républicain, mais en réalité, elle doit son nom à un vieux cardinal de France, principal ministre du roi Louis XIII et du roi Louis XIV. Les bibliophiles et les rats de bibliothèques les plus avertis auront compris que je parle bien sûr de la bibliothèque Mazarine, placée sous l'autorité de l'Institut de France et dont nous allons aujourd'hui vous raconter l'histoire en compagnie de son directeur, Yann Sordet. Yann Sordet, bonjour.
Bonjour.
Alors d'abord, pouvez-vous nous raconter la genèse de cette bibliothèque et par là même l'arrivée du cardinal Mazarin à Paris?
Oui, bien sûr. Auparavant, si vous permettez, je vais m'autoriser une petite rectification.
Rectifier.
C'est un objet absolument séduisant, la bibliothèque Mazarine, pour les rats de bibliothèque, comme vous dites, qui n'est pas un terme péjoratif pour les bibliophiles, mais c'est aussi un outil de travail pour les étudiants, pour les chercheurs, hein, tout particulièrement dans les disciplines historiques. Cette bibliothèque est ouverte aujourd'hui, hein, conformément à la volonté exprimée par le cardinal Mazarin en plein XVIIe siècle, et elle fonctionne du lundi au vendredi en accueillant ce public extrêmement diversifié. Bibliophilique, certes, pour certains, mais grand public, scientifique, chercheurs et étudiants pour d'autres. Vous avez raison d'insister sur ce fait, la bibliothèque Mazarine est née de la volonté d'un homme, est née de la volonté du cardinal Mazarin, qui après une intense activité politique, diplomatique, mais également militaire entre l'Italie, l'Espagne et la France dans les années 1630, à partir de 1639, s'installe de manière définitive en France. Très rapidement, il a la confiance absolue de Richelieu, hein, Premier ministre.
Qu'il recommandera à Louis XIII.
Absolument. Richelieu, à qui il va succéder. Hein. Mazarin entre au Conseil royal et va perpétuer après Richelieu et dans une certaine cohérence le ministérat. Hein, cette fonction particulière que la France du XVIIe siècle invente, hein, ces hommes politiques de premier plan, relativement solitaires, mais entouré de conseillers et d'experts qui jouent un rôle extrêmement important dans la direction à la fois politique, diplomatique et économique du pays.
Qui ne sont pas encore des premiers ministres, mais qui sont les premiers des ministres. Ou...
Qui sont le premier, et on parle de premier et de principal ministre. Oui. Du temps de son existence italienne, avant 1639, Mazarin a déjà une bibliothèque. C'est un amateur d'art, c'est un amateur de livres. Et cette bibliothèque, nous la connaissons, nous en connaissons le catalogue. Il a été préservé, il se trouve aujourd'hui dans un recueil qui est conservé au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale. C'est une petite bibliothèque, hein, de quelques centaines de volumes. Hein. Certains savants du temps diront qu'elle compose 5000 volumes, qu'elle représente 5000 volumes. Moi, je n'en crois rien. En tout cas, c'est une bibliothèque qui a tout de même une certaine prestance et que Mazarin a entretenu et installé dans son palais, romain, sur le Quirinal, un palais qui existe encore, hein, qui est le Palazzo Rospigliosi. À partir de 1639 et de son installation définitive en France, et il va recomposer, commencer à constituer une bibliothèque qui est de toute évidence la plus importante bibliothèque de type privé en Europe occidentale. Je dis bibliothèque personnelle et privée, mais elle a également, de par la dimension et de par les ambitions du personnage, et de par sa volonté personnelle, une dimension publique. On y reviendra sans doute. Cette bibliothèque va croître dans des proportions absolument considérables grâce à l'activité d'un homme sur lequel nous reviendrons, qui est Gabriel Naudet, hein, qui va être le bibliothécaire de la première bibliothèque parisienne de Mazarin.
Alors parlons-en. D'ailleurs, c'est peut-être le moment, parce qu'en gros, Mazarin donc charge ce Gabriel Naudet de lui constituer une nouvelle bibliothèque. Elle est placée dans un premier temps dans un lieu transitoire, et ensuite elle arrive, si j'ai bien suivi, à l'hôtel de Chevry-Tubœuf, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Vraisemblablement, Naudé est recruté par Mazarin au plus tard à la fin de l'année 1642. Les grandes acquisitions massives, acquisitions de bibliothèques entières, on acquiert à l'été 1643, grâce à l'entregent et à l'initiative de Gabriel Naudé, la bibliothèque du chanoine Jean Descordes, qui est une bibliothèque particulièrement riche, notamment dans les domaines historiques, dans le domaine de l'histoire ecclésiastique et dans le domaine de la médecine. Ces acquisitions sont faites par Naudé, qui va se démener pendant 10 ans et qui est un personnage assez exceptionnel.
Et... Que sait-on de lui ?
Alors, il a affirmé son expertise de bibliographe et de bibliothécaire à la faveur d'une charge précédente. Dans les années 1620, il était le bibliothécaire du président de Même, donc un parlementaire français qui avait une collection assez intéressante. Et il a adressé à son maître un traité qui est un traité resté absolument fondamental pour ce que nous considérons aujourd'hui comme la science bibliothéconomique. D'accord. L'art de composer des bibliothèques, de les organiser, de les disposer, y compris dans l'espace, de manière intellectuelle et de manière spatiale. C'est cet avis pour dresser une bibliothèque qui a été publié en 1627.
C'est très important, nous allons y revenir après justement pour parler du caractère exceptionnel de cette bibliothèque. Alors, Naudé donc est recruté en 1642, il achète des bibliothèques et il les constitue et que se passe-t-il ? Alors Mazarin arrive et...
Alors, Mazarin est donc arrivé en France en 1639. La première trace sensible de la présence d'une bibliothèque un petit peu importante dans les appartements de Mazarin sont à localiser auprès de l'actuelle rue de Rivoli. Vraiment, il faut imaginer cet hôtel de Clèves, qui est une des premières résidences parisiennes de Mazarin, qui se trouve au niveau, donc, je le disais, de la rue de Rivoli, quasiment à l'emplacement de l'actuel oratoire du Louvre, face au Louvre. La bibliothèque n'est vraisemblablement pas parfaitement organisée. Elle ne fait pas l'objet d'un classement, d'une mise en scène, d'une présentation architectonique, comme ça sera le cas plus tard. C'est vraisemblablement un entrepôt de livres dans lequel s'accumulent les acquisitions massives faites par Naudé auprès des libraires, par l'acquisition de bibliothèques entières. Quelques années plus tard, en 1643, que la bibliothèque de Mazarin va installée dans ce qu'on va appeler désormais le palais Mazarin.
D'accord.
L'hôtel de Chevry-Tubœuf, qui se trouve sur le site actuel, sur le site historique de la Bibliothèque nationale, puisque la Bibliothèque nationale, au XVIIIe siècle, va s'installer dans ce qu'était auparavant le palais Mazarin. Cet hôtel de Chevry-Tubœuf, il est situé au nord du palais royal, donc dans une proximité qui offrait un certain nombre d'avantages. Vous connaissez les liens particuliers qui unissaient Anne d'Autriche, la régente, et Mazarin. Donc voilà, une facilité topographique. Et une première bibliothèque est organisée dans cet hôtel de Chevry-Tubœuf, dans un emplacement que des sources nouvellement exploitées m'ont permis de localiser très précisément. C'est une bibliothèque qui occupe plusieurs salles dans l'aile gauche de l'hôtel de Chevry-Tubœuf. Et dès cet espace-là, la bibliothèque est rendue accessible aux chercheurs. 2 jours par semaine, elle est ouverte aux savants, aux lettrés, aux érudits.
Alors, est-ce que cette ouverture justement au public est quelque chose d'exceptionnel ou est-ce que c'est au contraire quelque chose de pratiqué en France à l'époque ?
Alors, certaines bibliothèques sont ouvertes aux savants, y compris des bibliothèques anciennes, d'origine pour certaines médiévales ou conventuelles. Je pense, par exemple...
Conventuelles, donc, qui se rapportent aux moines.
Oui, qui sont des bibliothèques de congrégation, des bibliothèques de monastères. Il y a un exemple parisien fameux, c'est la bibliothèque de Saint-Victor de Paris, la grande abbaye, qui a eu un rôle intellectuel et savant absolument colossal. Donc, au Moyen-Âge, à Paris, cette grande bibliothèque du couvent Saint-Victor de Paris, qui se trouve sur la rive gauche de la Seine, elle est donc vraiment enclavée dans le bâti conventuel, mais accessible aux non-clercs, accessible aux savants, aux chercheurs qui en font la demande. Avec l'ouverture de la bibliothèque Mazarine, les choses sont un petit peu différentes. Et je dirais qu'on passe à une vitesse, à une dimension supérieure. D'abord parce qu'il y a un véritable projet institutionnel. Si Naudet compose une bibliothèque pour Mazarin, c'est certes pour Mazarin, pour asseoir la gloire de Mazarin, mais aussi pour la dédier au public.
Oui, parce que Mazarin disait qu'il voulait qu'elle soit ouverte à toute âme vivante.
Oui.
Ça élargit le champ, justement, du public.
Ça élargit le champ, tout à fait, même si les sources dont nous disposons nous laissent penser que...
Seuls les chercheurs y allaient.
Voilà, l'ouverture était relativement...
C'est relativement vrai encore aujourd'hui.
Oui, d'une certaine manière, encore qu'à la bibliothèque Mazarine, les chercheurs viennent, mais vous avez aussi un public, dit grand public, qui sollicite nos collections, pas forcément le patrimoine écrit, mais qui sollicite nos collections courantes et puis qui vient visiter les lieux et visiter nos expositions. Donc c'est un véritable projet et c'est un projet qui est institutionnalisé. J'entends par là que les conditions d'accessibilité sont en quelque sorte publiées. Hein. Les jours d'ouverture sont affichés.
Ah oui,
et
oui.
On affecte
donc
un
c'est
bibliothécaire.
C'est vraiment le modèle de la bibliothèque contemporaine. Alors c'est...
D'une certaine manière, oui.
Enfin, la proto-bibliothèque commune.
C'est un élément de modernité. Ouais. Il y a une décision d'organisation institutionnelle qui faisait partie du projet Naudet 1, hein, dans la vie pour dresser une bibliothèque de 1627. Il y a cette conception nouvelle de la bibliothèque que Mazarin va être le premier à réaliser en France. Et dès 1643, localisée dans l'aile gauche de l'hôtel de Chevry-Tubœuf, cette bibliothèque fonctionne. Pas très loin d'un des rares éléments du palais Mazarin qui a survécu aujourd'hui, malgré tous les bouleversements qu'a connu ce palais depuis le XVIIIe siècle. Cet élément, c'est la grande galerie édifiée par Mansart et décorée par Romanelli en 1646. Hein, cette grande galerie haute de Mazarin, qui était un petit peu le centre de gravité de son palais, dans lequel il entretenait ses collections de peintures et de sculptures, eh bien la bibliothèque se trouve installée juste au sud de cette grande aile qui existe toujours aujourd'hui.
D'accord. Alors on parle de 40 000 volumes. Est-ce que c'est un chiffre moyen pour un personnage de cette envergure ? C'est-à-dire est-ce qu'un ministre, est-ce qu'un cardinal a environ 40 000 volumes dans sa bibliothèque ou est-ce qu'au contraire c'est un chiffre exceptionnel ?
Non, c'est un chiffre exceptionnel. C'est un chiffre qui est infiniment supérieur à la bibliothèque qui était celle de Richelieu, par exemple. Richelieu qui avait l'intention de faire bibliothèque, qui a demandé à son architecte d'édifier une bibliothèque également à l'intérieur de son palais. Richelieu avait une collection qui est restée fort modeste. La collection de Richelieu, elle représente environ 6000 volumes, extrêmement intéressant.
Oui, mais c'est relativement faible, effectivement.
C'est relativement faible, oui, vous avez raison. Et la bibliothèque de Mazarin, avec ses 40 000 volumes, alors c'est un chiffre qui est amusant. On peut suivre vraiment sur toute la décennie 1640, qui est vraiment une décennie au cours de laquelle cette collection s'accroît de manière absolument prodigieuse. On peut suivre la croissance de cette collection à la faveur de, grâce à différentes sources, notamment les éléments comptables que Gabriel Naudet a conservés, mais également les relations des visiteurs français et étrangers qui parcourent cette bibliothèque, qui en parlent. Et puis surtout, une source qui est très importante, c'est la correspondance de Gabriel Naudet avec les savants du temps. Et il y a plusieurs lettres entre Naudet et le père Mersenne, ce grand mathématicien, ce grand physicien que vous connaissez, et à dépouiller la correspondance de Mersenne, voilà, j'ai pisté la croissance en volumétrie de cette collection. 40 000 volumes, ce sont les chiffres qui sont avancés par Gabriel Naudet pour cette première bibliothèque parisienne de Mazarin à la veille de la Fronde, en 1648, 49, oui. Mais je suis, pas plus tard que l'année dernière, en 2013, dans le cadre d'une recherche que je conduis sur l'histoire de la bibliothèque Mazarin, je suis tombé sur un document inédit qui fait état d'une collection de 56 000 volumes.
Voilà. Ah, c'est considérable.
Encore plus important. Alors vous allez me dire, pourquoi une telle hésitation entre 40 000 et 56 000 ? Pourquoi n'arrive-t-on pas à décider précisément, scientifiquement, du volume objectif de cette collection ? Tout simplement parce que le catalogue n'en existe pas.
Oui.
Voilà. Elle a été entièrement dispersée, cette première bibliothèque. C'est la Fronde qui la disperse. C'est ce grand moment de crise politique, 1649-1652. La Fronde, fondamentalement hostile à Mazarin, va initier une vente publique, une dispersion à l'encan de cette première bibliothèque. Et la dispersion est faite sans qu'un catalogue ait pu en être dressé. Donc nous sommes contraints à des estimations.
Enfin, mais ce document... Reste que c'est considérable. Et
c'est absolument considérable.
Supérieur à la moyenne donc d'un...
Et notamment à la bibliothèque, à la taille de la bibliothèque du roi. La bibliothèque du roi, voilà, fait moins de la moitié. Voilà, on n'est pas du tout dans cette, dans les mêmes,
donc c'est vraiment...
dans les mêmes chiffres. Alors, le document qui est un brevet royal, sur lequel je suis tombé aux Archives nationales l'an dernier, qui fait état de ce chiffre de 56 000, est sans doute volontairement un peu exagéré, un peu excessif pour des raisons de rhétorique et de démonstration. Oui. C'est un document qui est, c'est un acte qui est signé juste au début de la Fronde. Et qui, sans doute, est destiné à sanctuariser la bibliothèque, à la préserver de la, la dispersion. Bien, et c'est en insistant sur son importance, sur sa taille, et donc sur la légitimité de sa vocation publique...
Qu'on la préserve.
Voilà, qu'on la préserve. Bon, bien sûr, ce sera un échec, puisque, puisque les frondeurs auront gain de cause.
Alors, architecturalement, à quoi ressemblait cette première bibliothèque mazarine?
Alors, on n'en sait pas grand-chose. Cette première bibliothèque mazarine, donc installée dans l'aile gauche de Chebry-Tubœuf, elle occupe plusieurs pièces, sans doute trois entrepôts et une petite, un petit espace qui servait sans doute de salle d'accueil. L'ensemble situé donc dans l'aile gauche de Chebry-Tubœuf. Mais vraisemblablement, très tôt, Mazarin a le projet de construire un volume, une aile spécifique pour, pour cette bibliothèque. Et cette aile, la construction en est confiée en 1646. Les archives nationales en ont conservé le marché. Elle est confiée en 1646 à deux architectes, Pierre Lemuet et Maurizio Valperga. Alors Pierre Lemuet, c'est un architecte français bien connu. Il a déjà travaillé dans le cadre de l'hôtel de Chevry-Tubœuf. Et Maurizio Valperga, c'est un architecte d'origine piémontaise qui travaille pour le royaume de Piémont. Et qui devient très rapidement l'architecte préféré de Mazarin. Donc les deux architectes, dont le nom a été révélé dans les années 1950, lorsqu'on a retrouvé ce marché de construction, vont édifier le long de la rue de Richelieu, cette colossale et prodigieuse annexe au palais Mazarin, qui va être la grande bibliothèque mazarine. L'édification en est très rapide. D'après l'ensemble des archives que j'ai pu retrouver, les devis des maçons, les devis des charpentiers, les devis des serruriers, les quittances des peintres, du couvreur d'ardoise, etc. Tous ces documents, essentiellement à finalité comptable, si vous voulez, s'échelonnent entre 1646 et 1648. Donc en 1648, cette grande aile est achevée, et je dis grande, mais l'adjectif n'est pas trop fort. Elle représente plus de 74 toises, ce qui signifie une longueur totale de 140 mètres carrés. Donc il faut imaginer une grande aile unique, un grand vaisseau, dont le rez-de-chaussée est dévolu aux écuries de Mazarin, écuries susceptibles d'accueillir une centaine de chevaux, et l'étage est distribué en une bibliothèque et en un appartement. Et la bibliothèque va être conçu là dans un dispositif et avec un décor singulièrement nouveau.
Pardon de vous couper, mais comment le public vient-il si en bas sont les écuries et à l'étage l'appartement privé?
Alors, dès l'origine, dès la conception architecturale, une porte a été envisagée directement sur la rue. Il s'agit de la rue de Richelieu, anciennement rue royale, mais qui s'appelle très rapidement, à la fin des années 1640, la rue de Richelieu, qui s'appelle toujours la rue de Richelieu, qui longe la Bibliothèque nationale. Une porte spécifiquement dévolue à l'accès public. Et ça, c'est un élément extrêmement nouveau. Vous avez parfaitement raison d'insister là-dessus. C'est-à-dire que le public n'aura plus besoin de s'identifier, de traverser des espaces qui relèvent de l'organisation palatiale, privée, essentiellement privée, pour atteindre cette bibliothèque. Il y a une accessibilité directe depuis la rue. Et on sait désormais beaucoup de choses. On connaît la couleur de la porte. Je suis tombé sur le devis du peintre. C'était un gris, une couleur grise. C'est une porte à double battant avec une grille. Et à côté de cette porte, ou au-dessus, devait figurer une inscription sur marbre. En latin, manifestant la vocation publique de cette bibliothèque voulue par la générosité et la volonté de Mazarin.
Alors c'est sans doute la raison pour laquelle on retrouve son blason et ses marques héraldiques à l'intérieur de la bibliothèque. Donc, il veut sans doute affirmer sa munificence, sa générosité ou sa puissance, non ?
Absolument. La grande bibliothèque qui est organisée dans cette nouvelle aile va faire l'objet d'une décoration absolument somptueuse, à la fois somptueuse et nouvelle, que nous connaissons parce qu'elle a largement survécu. Hein. Nous la retrouvons dans l'actuelle bibliothèque Mazarine. C'est une décoration qui est extrêmement novatrice en France. Je parle de décoration, mais j'aurais plutôt tendance à considérer qu'il s'agit d'une absence volontaire de décoration. C'est-à-dire que tous les éléments de plastique, tous les éléments décoratifs sont fondamentalement des éléments fonctionnels, des éléments de menuiserie de la bibliothèque qui servent au stockage des livres, à leur organisation dans la périphérie de l'espace. Et donc ce décor, exclusivement réservé à la menuiserie, repose sur deux éléments figurés principaux. D'abord, un régime de colonnes. Vous avez 54 colonnes. Alors, des colonnes qu'on a toujours dites des colonnes corinthiennes, ce n'est pas exactement le cas. C'est des colonnes d'ordre composite qui sont constituées de la juxtaposition, de l'articulation de l'ordre corinthien et de l'ordre ionique. Des colonnes particulièrement élégante en chaîne, qui rythme la totalité de la périphérie et qui supporte une galerie. Donc, premier élément décoratif. Et deuxième élément décoratif, extrêmement présent, extrêmement prégnant, c'est l'héraldique Mazarine. Voilà. Et qui figure.
Quelles sont les armes de Mazarin ?
Alors, les meubles principaux des armes de Mazarin sont constitués du faisceau de licteur, vous savez, ce faisceau
romain,
absolument, de verges qui sont liées ensemble autour d'une hache et qui ont une signification politique. Alors, je renvoie pour l'interprétation aux travaux extrêmement séduisants, extrêmement fins d'Ivan Loskutov, qui a beaucoup travaillé sur l'héraldique Mazarine. Bien sûr, ce motif qui est très très rare dans l'héraldique avant Mazarin, qui fait des apparitions très très brèves et étrangement...
Et qui fait référence à quoi ? À la chose publique, en fait, c'est ça ?
À la chose publique et aux origines romaines de Mazarin.
Ah oui, de fait,
voilà,
oui.
Il y a une inspiration républicaine, qui renvoie à la Rome républicaine, et il y a une allusion absolument évidente, une dénotation directe de ses origines romaines. La hache manifeste le pouvoir, la capacité de décider, de trancher, et les verges liées autour de la hache manifestent, c'est évident, la capacité d'union, la capacité de rassemblement. Et ces armes sont également accompagnées de trois étoiles, voilà, de trois étoiles qui renvoient à la clairvoyance, qui renvoient aux vertus de discernement et d'intelligence. Et cette héraldique, confiée presque exclusivement à la menuiserie, va rythmer comme un ostinato, c'est à volontairement que j'utilise ce motif d'ordre musical, elle va rythmer comme un ostinato la totalité de la grande galerie. Nous retrouvons ces éléments héraldiques au-dessus des portes, nous les retrouvons sur le revers du balcon et nous les retrouvons au cœur des motifs en ferronnerie qui orne la balustrade. Et alors, pour vous répondre précisément, le fait que le décorum de cette somptueuse bibliothèque soit exclusivement réservé à l'héraldique Mazarine et à la menuiserie manifeste une volonté évidente de sobriété et d'exigence fonctionnelle.
Néanmoins, il semble qu'il y avait également des tableaux dans cette bibliothèque.
Oui, alors ça, c'est une mention un peu qui m'a surpris, qui n'a, à ma connaissance, pas été relevée par les historiens, et notamment les historiens de la... qui ont beaucoup travaillé sur les collections d'art de Mazarin. La collection de peinture de Mazarin est absolument colossale. Elle a été dispersée après sa mort, après 1661. Et aujourd'hui, on a pu localiser qu'entre 10 et 15% seulement de cette énorme collection de peinture. Moi, je suis persuadé qu'il n'y avait pas ou très peu d'œuvres d'art dans la bibliothèque. Il y a un choix de sobriété. Il faut rappeler notamment le fait que cette bibliothèque est voûtée. C'est une grande galerie voûtée, et c'est une voûte qui est restée entièrement nue. et je suis persuadé qu'elle est restée nue de par la volonté de Mazarin et de Gabriel Naudet. Alors on a bien des échanges gardés par, par une correspondance de 1647 entre Francesco Barberini, autre cardinal qui est un proche de Mazarin, qui nous laisse penser que on a envisagé un temps de confier la décoration de cette voûte à Pierre de Cortone, le grand artiste italien. Proposition que Pierre de Cortone va décliner, il a d'autres projets italiens. Ça avait une certaine cohérence parce que les voûtes dans les grands espaces palatiaux sont décorées, la galerie haute. Mazarin l'a fait décorer par Romanelli. Mais à partir du moment où Pierre de Cortone refuse, on ne sollicite aucun autre peintre. Et je suis tombé sur le mémoire quittancé du peintre, un peintre en bâtiment, entendons-nous bien, qui s'appelle Thomas Boudan, dont l'histoire de l'art n'a pas gardé le...
Si vous avez une toile de lui, voilà.
Ouais. On n'a pas de toile de lui, on a des enduits de lui. Mais il a été... la description qu'il donne du travail qu'il a fait à la voûte nous laisse penser qu'il s'agit d'une peinture définitive et non D'accord. pas du support destiné à recevoir une fresque ou un décor peint. Donc, je veux dire par là qu'il y a la volonté d'exclure toute décoration picturale. Ce qui est très neuf dans les grandes bibliothèques du XVIe siècle ou du début du XVIIe siècle qui ont pu inspirer Mazarin, la voûte était toujours décorée. Donc pas de voûte peinte et pas de tableau. Impossibilité du reste d'afficher...
Que sont ces tableaux dont on parle alors dans le... C'est dans son
alors,
testament
Alors, c'est dans le testament de Mazarin, absolument. Ouais. Le testament de mars 1661, Mazarin disperse toutes ses collections, sauf la bibliothèque. Elle fait vraiment l'objet de dispositions tout à fait singulières dans son testament. Et il donne, notamment à la couronne, des tableaux qu'il dit être entreposés dans la bibliothèque, se trouver dans la bibliothèque. Donc, de quel tableau s'agissait-il ? Il y a plusieurs tableaux, et où se trouvait-il ? Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Les tableaux ne servaient pas, ça j'en suis absolument persuadé, à décorer la bibliothèque elle-même. Parce que l'une des particularités, et qui fait sa modernité à cette bibliothèque, c'est que les armoires de livres occupent toutes les murailles, la totalité des surfaces verticales.
Donc il n'y a pas de place, forcément.
Il n'y a pas de place. Au sommet, les derniers volumes, si vous voulez, les derniers éléments de menuiserie, sont placés juste au-dessous de la voûte. Il n'y a aucun espace laissé libre pour des éléments qui ne relèvent pas de la menuiserie fonctionnelle d'une bibliothèque et qui ne soient pas destinés à accueillir des livres. Or, la bibliothèque est également composée de cette grande galerie, mais d'espaces de dégagement, d'un petit cabinet, d'une salle, juste avant, d'une salle juste après, qui étaient sans doute des salles de travail, qui avaient peut-être une fonction de magasin, de zone de transit. Il n'y a qu'une possibilité, c'est que ces tableaux, dont nous ignorons tout, le sujet, le peintre, sauf à découvrir de nouvelles pièces d'archives, que ces tableaux provenaient de ces espaces-là.
D'accord. Alors, vous parliez de Gabriel Naudet, qui apparemment a joué un rôle dans l'architecture et dans la décoration de cette bibliothèque. Est-ce que ça rejoint la particularité de cette bibliothèque Mazarine, dont vous dites qu'elle introduit le modèle type de la bibliothèque classique ? Est-ce que c'est lié justement à ce mémoire de Gabriel Naudet dont vous parliez tout à l'heure ?
Oui, tout à fait. D'une certaine manière, la bibliothèque de Mazarin, cette bibliothèque édifiée dans la nouvelle aile qui est livrée en 1648, constitue le premier exemple en France de la bibliothèque moderne et classique. Mmh.
Alors, qu'étaient les bibliothèques précédentes ?
L'héritage, en termes d'organisation, de spatialisation, est un héritage médiéval et qui consiste à penser et à concevoir les bibliothèques comme des espaces segmentés. En général, vous n'avez pas un espace unique, mais des épis, qui très souvent sont des pupitres, constituent toute une série de rangs le long des murs. Et sur les deux faces de ces pupitres, les volumes sont implantés. Donc on a vraiment une organisation qui occupe tout, qui occupe tout l'espace. Ce qui autorise du reste à concevoir des ouvertures sur les murs et qui autorise également à accueillir de la décoration sur les murs. Même les bibliothèques édifiées à la Renaissance qui intègrent le vocabulaire nouveau et ce sens nouveau de la hiérarchie des volumes et des proportions. Je pense à la bibliothèque Malatestiana à Cesena en Italie ou à la bibliothèque Laurentienne, donc à Florence. L'organisation interne de ces bibliothèques-là, de ces bibliothèques de la Renaissance, correspondent à ce schéma en dépit transversaux. La nouveauté consiste à repousser les livres à la périphérie de l'espace, à implanter. Alors, la chose nous semble naturelle aujourd'hui, mais elle n'allait absolument pas de soi. Voilà. La chose consiste à implanter les livres dans la périphérie de la salle. Ce qui va avoir toute une série de conséquences, et notamment ce qui va porter désormais à entreposer les livres avec le dos visible, verticalement avec le dos visible. Ce qui va avoir comme conséquence.
Un gain de place, déjà.
Oui, une économie des espaces, vous avez raison, mais ce qui va également porter à identifier les livres sur le dos, avec des titres. Avec une dorure sur le dos. Voilà. Donc, une disposition périphérique, dans la périphérie, qui a pour conséquence une libération de l'espace central, et qui a pour conséquence, lorsque ce schéma de disposition est poussé à l'extrême, l'exclusion de tout décor. Alors, en Europe, la bibliothèque Mazarine, ça n'est pas la première. La première bibliothèque à mettre en œuvre ce dispositif, c'est la bibliothèque de l'Escorial, la bibliothèque conçue par Juan de Herrera, qui est l'architecte de Philippe II d'Espagne, qui est édifiée entre 1563 et le début des années 1580. C'est la première bibliothèque à repousser les livres dans des armoires qui sont implantées dans la périphérie de l'espace. On a ensuite, l'étape suivante, c'est la Bibliotheca Ambrosiana à Milan au tout début du XVIIe siècle. Et encore une troisième étape, c'est la Bibliothèque des Barberini à Rome. Mais dans ces trois bibliothèques, il y a des éléments encore traditionnels, entre guillemets. Dans la bibliothèque de l'Escorial, les voûtes sont peintes. Il y a une décoration absolument fastueuse qui renvoie à une représentation du quadrivium et du trivium, qui est une allusion directe à l'organisation des savoirs. Un petit peu plus tard, à l'Ambrosiana, à Milan, la voûte est peinte. Et vous avez une galerie de portraits au-dessus des livres. Seule la bibliothèque Mazarine va pousser ce principe à l'extrême, c'est-à-dire en refusant que la menuiserie et les livres soient accompagnés d'un décor additionnel qui semblait sans doute absolument superfétatoire à Naudet et à Mazarin. Et ça, c'est une conception que nous trouvons dès 1627 dans le traité de Gabriel Naudet.
D'accord. Alors, donc c'est un lieu délibérément consacré au savoir, à l'exclusion justement de cette décoration qui pouvait éventuellement distraire ou perturber ou signifier autre chose. Et vous dites cependant que, bien que consacrée au savoir, bien couverte au public, elle va, durant la fronde, alimenter des fantasmes de la part des adversaires, des ennemis de Mazarin. Alors, quels sont ces fantasmes et est-ce qu'ils sont, simplement des critiques politiques plutôt que des choses fondées sur des éléments factuels?
Alors, c'est une bibliothèque, vous avez raison, qui suscite des fantasmes, mais qui suscite aussi d'énormes convoitises. L'un et l'autre sont liés. On peut effectivement parler de fantasmes, parce que vous savez que la fronde, entre 1648-49 et 1652, est marquée par l'explosion éditoriale d'un corpus de pamphlets. Des libelles, essentiellement hostiles à Mazarin, à sa politique.
La Mazarinade, d'ailleurs, qui est un...
C'est exactement le corpus des Mazarinades, dont aujourd'hui la bibliothèque Mazarine conserve une très belle, sinon la plus belle collection au monde. Et donc ces Mazarinades, dont la plupart sont hostiles, je le disais, à Mazarin, qui moquent sa politique, qui moquent son goût du pouvoir, qui moquent sa passion jugée excessive pour l'argent, qui évoquent ses goûts de luxe en matière de collectionneur, qui va railler ses grands arts aménagements architecturaux, eh bien, certaines des mazarinades évoquent justement la bibliothèque, en raillant le fait que cette bibliothèque a été construite au-dessus des écuries, en insistant sur le fait que cette bibliothèque n'aurait eu hein, qu'une fonction absolument ostentatoire, Mazarin étant lui-même censé être ignorant de son contenu. Donc élément de fantasme, hein, c'est évident, mais aussi élément de convoitise, hein, parce que la bibliothèque est donc dispersée en vente publique entre janvier et février 1652 et elle est entièrement dispersée. Hein. Elle est entièrement vidée. Les acquéreurs sont nombreux. Certains n'interviennent pas en leur nom propre, mais par l'intermédiaire d'hommes de paille, de prête-noms. Hein.
Alors c'est ce que va faire Naudet aussi pour conserver un minimum d'œuvres.
Oui.
Et préserver un peu ce qu'il pourra, en tout cas, de la collection.
Oui, oui. Naudet a vraiment... la bibliothèque de Mazarin, c'est la fille de Naudet. Mmh. Hein. Donc, on parle de la bibliothèque de Mazarin, mais elle appartient aux deux hommes. D'ailleurs, je suis tombé sur une formule assez amusante que personne n'avait relevée précédemment. Une formule que nous trouvons sous la plume du père Mersenne. Le père Mersenne parle de Bibliotheca Mazarino Naudaea, la bibliothèque Mazarino-Naudéenne, hein, insistant bien par là sur la nécessité de penser cette institution comme née de la volonté et des collections des deux hommes. Les moyens de Mazarin, la volonté politique de Mazarin, mais l'intelligence documentaire, la sagacité et l'expertise bibliothécaire de Gabriel Naudet. Je crois qu'on ne peut pas penser la constitution de ce projet sans renvoyer aux deux hommes. Effectivement, Naudet a essayé de préserver la bibliothèque de la Fronde. Il a fait plusieurs propositions à Mazarin, Mazarin étant en exil. Hein, ce sont des propositions dont la correspondance entre les deux hommes témoigne aujourd'hui. Il a proposé de la confier à la Sorbonne, c'est-à-dire à la faculté de théologie, pour qu'elle soit en quelque sorte protégée. Il a aussi proposé de la placer directement sous la protection du roi. Hein, en témoigne le document que j'ai découvert l'an dernier. Nous sommes en 1651. Et voyant que ces solutions ne fonctionnaient pas, hein, il a pris deux types d'initiatives. Il a, d'une part, engagé un certain nombre d'intermédiaires à acquérir discrètement
partie des œuvres dispersées,
voilà, partie des livres, des manuscrits et des imprimés. Qu'il saurait donc où retrouver quand les temps seraient devenus plus sereins. Et puis lui-même a pris l'initiative de cacher, de sanctuariser, hein, non seulement dans sa propre bibliothèque, mais également auprès de l'abbaye Sainte-Geneviève, hein, puisque Naudet a habité, avait un logement à l'intérieur du cloître de l'abbaye Sainte-Geneviève, au cœur du quartier latin, au sommet de la montagne Sainte-Geneviève, pas très loin de l'actuelle bibliothèque Sainte-Geneviève, et notamment une trentaine de livres, les documents les plus rares et les plus précieux de Mazarin ont été confiés au prieur, hein, à l'abbé général de l'abbaye Sainte-Geneviève. Donc il y a eu effectivement une tentative de sauver, sinon tout, du moins une partie à la plus précieuse.
Et lorsqu'en 1653, Mazarin revient à Paris, est-ce qu'il refonde une nouvelle collection ou est-ce qu'il récupère ce qu'on lui avait pris?
Les deux. Il va essayer. Naudet n'est plus là. Ouais. Naudet a été recruté par Christine de Suède. Hein, mais Naudet ne va pas rester longtemps. Il ne se plaira pas. La cour de Christine de Suède était sans doute un lieu étrange, plein de tensions, de rivalités. Le climat ne devait pas plaire à Naudet. Il a décidé de rentrer. Il meurt en chemin. Donc c'est un autre bibliothécaire sur lequel nous savons beaucoup. Trop peu de choses, hein, qui va succéder à Naudet, un bibliothécaire qui a été son acolyte, qui a été son adjoint, qui s'appelle François de la Poterie. François de la Poterie et Mazarin sauront auprès de qui récupérer un certain nombre d'exemplaires. Hein. D'ailleurs, c'est amusant, la Bible de Gutenberg, hein, la Bible mazarine, hein, que nous conservons. En ce XVIIe siècle, on ne savait pas qu'il s'agissait de la Bible de Gutenberg. Hein, elle n'a été identifiée qu'au XVIIIe. Eh bien, elle est sortie pendant la Fronde. Elle a été acquise par un parlementaire, par un magistrat parisien. Et puis, un petit peu plus tard, Mazarin...
C'est formidable, ça. Est-ce que lui-même le savait
a pu la récupérer. Non, non, non.
Non, il ne savait pas.
C'est très précisément au milieu du XVIIIe siècle, en 1760, hein, que la Bible de Mazarin, cette Bible à 42 lignes, a été identifiée comme étant la Bible de Gutenberg, le premier livre imprimé de l'histoire de l'humanité, où jusque-là, c'était un incunable comme un autre, hein, si vous voulez. Donc, mais il est amusant de voir que les deux volumes de cette grande Bible sont sortis pendant la Fronde et ont pu être récupérés, on peut être récupérés par la suite.
Alors, cette collection refondée, elle constitue combien de volumes?
Alors, la collection initiale, hein, 40 000 ou 56 000, ouais, vraisemblablement entre les deux, la collection initiale n'est pas reconstituée. Alors, la deuxième bibliothèque de Mazarin, reconstituée après la Fronde, enfin entre 1653 et son décès en 1661, est infiniment plus modeste. D'après un décompte que je viens d'achever, elle représente 26 800 volumes.
D'accord, hein, ouais.
26 800
relativement
volumes.
Considérable malgré tout.
Ça reste bien sûr important, ouais, mais ça n'atteint pas le volume de la précédente. Ouais. Mais c'est en tout cas une collection extrêmement importante puisque c'est le cœur de l'actuelle bibliothèque Mazarine. Mmh. C'est cette collection, oui, que laisse Mazarin à sa mort en 1661.
C'est ce que je vais dire, oui. C'est en fait, cette dispersion a eu quelque chose de positif pour les Français d'aujourd'hui, c'est qu'elle a poussé Mazarin à sécuriser sa bibliothèque au moment de sa mort. Et donc il la lègue au Collège des Quatre Nations qui abrite aujourd'hui l'Institut. Et ce collège donc en fait quoi ? Une bibliothèque à nouveau ou...
Oui. Donc vous avez raison, la Fronde a eu son importance, même si Gabriel Naudet a toujours dit, avant et pendant la Fronde, que l'intention de Mazarin de rendre cette bibliothèque publique et de la pérenniser, cette intention était au cœur du projet. Hein. Mais il est évident que la dispersion a dû renforcer la prudence et explique... La précision de ces dispositions testamentaires. On a parlé tout à l'heure du testament de 1661. La bibliothèque fait l'objet de clauses absolument exceptionnelles. L'ensemble du palais doit être divisé en deux. L'une des moitiés ira à l'un des héritiers de Mazarin et l'autre à son neveu et l'autre à sa nièce. Il y a un partage. Les collections qui se trouvent dans l'une et l'autre partie du bâtiment doivent être scindées également. Le testament contient également toute une série de legs particuliers pour des institutions. Pour des institutions pieuses, pour le roi, qui contiennent des œuvres d'art. Mais en revanche, les livres et tous les livres doivent être maintenus dans leur cohésion, oui, dans leur intégrité.
Et même dans leur décor.
Ah oui. Donc Mazarin, en 1661, décide, quelques jours avant sa mort, de fonder ce collège, oui, hein, cet établissement d'enseignement qui doit réunir donc un collège au sens d'Ancien Régime, hein, donc une institution d'enseignement qui doit réunir également une académie équestre, mais qui ne verra pas le jour, et troisième élément, la bibliothèque. Hein, donc seuls le collège et la bibliothèque vont être pérennisés.
Et est-ce que le décor va être réellement importé, si je puis dire, de l'ancienne bibliothèque à la nouvelle, selon les vœux de Mazarin ?
Oui. Mazarin a légué non seulement ses livres, il le dit explicitement dans son testament de mars 1661, testament dont nous n'avons pas l'original, mais une copie, sans doute, très précoce et conservée à la Bibliothèque nationale. Les tablettes, la menuiserie de la bibliothèque doit accompagner les livres.
Et c'est un travail gigantesque.
Est importante. Oui, c'est un travail gigantesque. Alors, c'est amusant. J'ai une de mes intentions initiales dans l'enquête que je viens de conduire sur l'organisation matérielle et le décor de la bibliothèque Mazarine a été de préciser la chronologie non seulement de la mise en place de ce décor, de ce splendide décor menuisé, mais également son démontage et son transfert. Parce que, singularité absolue, lorsque le collège voulu par Mazarin est édifié, sur la rive gauche de la Seine, en face du Louvre, par Levaux, non seulement, conformément à la volonté de Mazarin, les livres quitte son ancien palais pour venir être installé ici, mais également toute la menuiserie. Et pendant très longtemps, on a avancé plusieurs dates possibles pour ce transfert, hein, donc y compris des dates très tardives, hein, jusque dans les années 1680. Or, la découverte de plusieurs documents et l'analyse des comptes du collège m'a permis de fixer ce transfert très précisément en 1668. Hein, donc c'est en 1668, sept ans après la mort de Mazarin, que d'abord les livres, hein, à la fin du printemps, puis la menuiserie dans le courant de l'été, sont transférés dans l'actuel collège Mazarin. Collège Mazarin dont la construction n'était pas achevée.
D'accord. Alors je fais une petite incise. Vous êtes donc l'auteur d'une étude de 44 pages sur les bibliothèques mazarines. Est-ce que l'auditeur de Canal Academy peut se la procurer sur Internet ou dans une revue?
Oui, alors pour ne rien vous cacher, c'est un. J'ai profité d'un grand colloque qui a eu lieu en Hongrie à l'automne 2013, colloque consacré au décor des bibliothèques à l'âge classique et à l'âge baroque, qui réunissait des contributions relatives à l'histoire des bibliothèques italiennes, espagnoles, et un certain nombre de contributions également portant sur le décor des bibliothèques baroques d'Europe centrale. Vraiment dans le patrimoine architectural et décoratif de baroque de l'Europe centrale, les bibliothèques ont une place absolument considérable. En Hongrie, actuelle République tchèque, Autriche, etc. Et donc j'ai profité de ce colloque pour présenter la plupart des fruits de cette enquête. Les actes sont en cours de publication, d'accord, mais ils sont également disponibles sur Internet, en ligne, dans le réseau de publications académiques d'archives ouvertes.
Hein. D'accord. Est-ce qu'on peut se les procurer en tapant un mot-clé ou deux dans Google?
Oui, le plus simple est de passer par le site de la bibliothèque Mazarine. Sur la page architecture et décor, dans la bibliographie, cet article est cité puisqu'il est déjà disponible dans sa version prépubliée,
d'accord, hein,
donc en ligne.
Entendu. Alors revenons au fil de l'histoire de la bibliothèque Mazarine. Donc, nous arrivons à un stade en fait où Mazarin est mort. Sa bibliothèque est installée au Collège des Quatre Nations, donc qui accueille aujourd'hui l'institut, comme je le disais. Des modifications, en revanche, vont être apportées aux deux galeries. Sur deux vagues chronologiques, la première en 1739-1741 et la seconde dans les années 60-70, en gros. Est-ce que vous pouvez nous dire si elles ont profondément modifié le projet initial de Mazarin ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est superficiel et que ça n'a pas affecté
Le projet initial est maintenu. Le projet a été maintenu presque miraculeusement, hein, parce que cette enquête m'a également permis de découvrir toute une série de circonstances qui auraient pu entraîner la disparition de ce décor, sa suppression ou des modifications substantielles, et ceci dès le XVIIe siècle. Mais l'organisation générale, hein, l'articulation étroite de la menuiserie, de son décor de colonnes, la configuration de la grande galerie ont été conservées. Alors à quelques nuances près, en 1668, lorsque cette grande galerie de la rue de Richelieu investie et réajustée dans l'actuel collège Mazarin, elle occupe une galerie coudée, c'est-à-dire une galerie en forme de L, avec une petite branche et une grande branche. Mais globalement, la configuration est la même. Vous faites effectivement allusion à deux campagnes de travaux importantes. Une campagne de travaux a eu lieu au milieu du XVIIIe siècle, entre 1739 et 1741. Ce sont des travaux qui sont d'abord des travaux d'urgence. La voûte s'effondre. Hein. Voilà, même pas un siècle après l'achèvement du palais, les risques étaient vraiment très très importants, hein, à lire les diagnostics qui en sont faits par le bibliothécaire et par l'architecte. Donc on décide bien sûr de renforcer les structures, hein, de reprendre tous les éléments d'architecture qui nécessitent une mise en sécurité, mais à la faveur de ces travaux, on pratique des aménagements susceptibles d'accroître les capacités de cette grande galerie. Donc initialement, cette galerie était voûtée. On va remplacer la voûte par un plafond plat, ce qui va permettre d'édifier des étages supplémentaires de tablettes et d'accroître d'environ 15 000 volumes les capacités de la salle. Alors, il y a plusieurs dessins, plusieurs profils, hein, qui ont été conservés aux archives nationales que j'ai examinées il y a très peu de temps et qui documentent les différents projets, hein, qui ont accompagné cette refonte, cette réorganisation du bâtiment. Mais les principes généraux, sauf cette transformation de voûte en plafond, ne sont pas bouleversés.
D'accord. Alors, vous notez également que durant toute son existence, la bibliothèque a échappé à plusieurs modifications qui auraient pu, pour le moins l'affecter. On parle des dernières suggestions, notamment, qui consistaient à repeindre les boiseries, repeindre le plafond, supprimer les pupitres. Enfin, il y a eu tout un tas de projets qui n'ont pas eu lieu, heureusement. Enfin, heureusement, peut-être, d'ailleurs. Mais en tout cas, on a préservé la bibliothèque dans sa perspective
initiale. Dans son organisation initiale, oui, vous avez raison. Alors, ça n'était pas le cœur des objectifs de ma recherche, mais vous savez, comme dans toute recherche historique...
On est amené
On a un cahier des charges initiales, il y a des choses qu'on découvre, des réponses qu'on obtient, des réponses qu'on n'obtient pas, et puis on découvre des choses qu'on ne soupçonnait pas. Et effectivement, il y a eu toute une série de circonstances. En 1652, par exemple, pendant la Fronde, il y a des acheteurs qui veulent acheter la menuiserie. Pas les livres, mais la menuiserie. Et ça, on ne le savait pas. Et on imagine volontiers que les livres, on peut partiellement les récupérer après, la menuiserie, à partir du moment où elle est dispensée, c'était fini. On a proposé également, en 1662, lorsqu'on cherche un emplacement pour la fondation du Collège Mazarin, il y a plusieurs propositions qui sont faites, notamment la proposition géniale qui sera retenue face au Louvre, mais on propose aussi de fonder le Collège Mazarin à l'intérieur du Palais Mazarin. Le Palais Mazarin étant appelé à devenir, à accueillir après la Banque de l'eau au XVIIIe siècle, puis la Bibliothèque nationale, vous imaginez rétrospectivement ce qu'auraient pu devenir ces boiseries. Elles étaient sans doute promises à la disparition. Vous connaissez aussi les projets d'Haussmann.
Je précise peut-être pour les auditeurs de Canal Académie, c'était un banquier qui s'appelle John Law, voilà, qui est tristement célèbre pour avoir créé les assignats et puis avoir été victime de la première grande crise boursière. Ce n'est pas la Banque de l'eau GDF.
Absolument, oui, tout à fait. C'est un établissement financier, d'ailleurs, qui va faire faillite. C'est un des grands scandales économiques. Voilà, c'est un des grands scandales économiques du début du XVIIIe siècle. Et il va installer les documents d'apparat de cette banque, les espaces d'apparat dans les vestiges du palais de Mazarin. Voilà. Et toute une série d'autres occasions.
On a failli aussi la transformer en musée.
On a failli transformer la bibliothèque en musée. Ça, c'est le directeur de la bibliothèque après la Seconde Guerre mondiale, donc Jacques Renoux, qui est vraiment travaillé par cette idée, par ce projet qu'il va soumettre à plusieurs reprises. Son idée principale, c'est de déporter de la bibliothèque Mazarin toutes les fonctions bibliothécaires, stockage, restauration, accueil des lecteurs et des chercheurs, communication, équipement, acquisition, etc. Tout ce fonctionnement bibliothéconomique qui font la vie de la bibliothèque, il avait l'intention de les déporter dans des bâtiments neufs pour transformer cette grande galerie en musée. Donc intention sans doute patrimoniale, fort révérencieuse, mais qui n'aurait pas maintenu, je crois, cette orientation qu'avaient souhaité Mazarin et Naudet. Ils ont voulu, au XVIIe siècle, une merveilleuse bibliothèque avec une capacité vivante de démonstration. Vous avez raison, une capacité de démonstration et de représentation extrêmement importante, un lieu de prestige, mais vivant parce qu'animé tous les jours de la semaine, d'une fonction bibliothécaire.
Et non figé, oui, dans
voilà,
un
tout
instant.
À fait. Et c'est un... C'est non seulement une idée forte, mais en même temps une idée qui fonctionne, parce que la bibliothèque Mazarin, aujourd'hui, c'est cela, c'est une bibliothèque qui fonctionne, qui développe encore ses collections, à l'intérieur d'un cadre d'ordre muséographique qui a été dessiné à partir du XVIIe siècle. Et il est fort heureux qu'elle ait encore cette vocation bibliothécaire et qu'elle n'ait pas été transformée en musée.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Yann Sordet, directeur de la bibliothèque Mazarin, merci. Chers auditeurs, cette émission donc se termine. Vous pouvez retrouver l'étude donc de Yann Sordet, directeur de la bibliothèque Mazarin, sur Internet en allant sur le site de la bibliothèque Mazarin. Sans doute pouvez-vous taper également dans votre moteur de recherche Yann Sordet, S-O-R-D-E-T, bibliothèque Mazarin, et vous devriez sans doute trouver cette étude assez facilement. J'espère en tout cas que cette émission vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir cette fameuse bibliothèque, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Thank you.